Allô? Tout le monde m'entend? Alors, bonne nouvelle, c'est la dernière conférence de la session. Et donc, nous sommes arrivés au dernier jour de notre session sur la joie, et vous aurez remarqué que les enseignements de ce lundi sont tous orientés plutôt sur l'action, sur la mission, sur le rayonnement de cette joie. D'abord avec les textes du magistère, Père Bernard nous en a parlé. Et ensuite, dans le monde du travail, comme viennent de le dire Hildut et Marie-Laure, travail qui donc nous occupe une bonne partie de notre vie. Dans ce bref et ultime enseignement, nous voudrions nous arrêter sur un dernier aspect de la joie chrétienne qui résume un peu finalement tout ce qu'on a dit, un aspect qui est peut-être évident, mais comme toutes les choses évidentes, ça vaut le coup parfois de s'y arrêter pour réfléchir. Et donc ce dernier aspect est celui-ci, la joie est contagieuse, la joie irradie, la joie se partage. Inversement, rencontrer quelqu'un de triste alors qu'on est soi-même dans la joie, nous cause de la gêne. Cette expérience ambivalente est bien décrite par Benoît XVI dans le message que vous connaissez maintenant tous très bien puisque nous l'avons écouté durant la veillée hier soir. On ne peut pas être heureux si les autres ne le sont pas. La joie doit donc être partagée. Allez dire aux autres votre joie d'avoir trouvé ce trésor qui est Jésus lui-même. Nous ne pouvons pas garder pour nous la joie de la foi. Pour qu'elle puisse demeurer en nous, nous devons la transmettre. Si la joie est le fruit de la présence de Dieu dans l'âme, transmettre la joie revient à dire qu'il nous faut transmettre Jésus, donner Jésus, donc être missionnaire, évangéliser. Faire le lien entre joie et mission. Indiquer en quel sens la joie de croire ne peut être purement intérieure, mais doit rayonner. Voilà le thème de ce dernier enseignement. Dans une brève première partie, nous commencerons par nous demander dans quel monde nous devons rayonner cette joie qui nous habite, et puis ensuite nous verrons comment rayonner cette joie de l'Évangile dans ces circonstances. Alors d'abord, rapidement, dans quel monde devons-nous rayonner l'Évangile? On ne va pas faire une analyse sociologique et géopolitique de la société dans laquelle nous sommes, rassurez-vous. On va juste développer deux points. D'abord, nous sommes dans un monde triste et sans espérance, malgré son développement technologique avancé. Et ensuite, le deuxième point, nous vivons dans une société relativiste qui a mis de côté les concepts de vérité, et cela a des conséquences sur la joie. Alors d'abord, un monde triste et sans espérance. Qui ne désire être joyeux? Pourtant, combien de nos contemporains présentent un visage triste et inquiet? Jamais dans l'histoire, une civilisation n'a pu offrir aux hommes tant de biens matériels, réduire les difficultés de la vie par l'usage de la technologie, porter les capacités d'action de l'homme à un point encore inenvisageable il y a 60 ans. Et pourtant, l'homme d'aujourd'hui n'est pas heureux. Il suffit de prendre le métro à Paris pour s'en rendre compte, mais pas seulement. Paul VI avait déjà vu ce paradoxe dans le texte Gaudete in Domino, lorsqu'il écrivait: la société technique a pu multiplier les occasions de plaisir, mais elle a bien du mal à sécréter la joie. Car la joie vient d'ailleurs, elle est spirituelle. L'argent, le confort, l'hygiène, la sécurité matérielle ne manquent souvent pas. Et pourtant, l'ennui, la morosité, la tristesse demeurent malheureusement le lot de beaucoup. Oui, le froid et les ténèbres sont d'abord dans le cœur de l'homme qui connaît la tristesse. C'est donc en devenant davantage présent à Dieu, en se détournant du péché, que l'homme peut vraiment entrer dans la joie spirituelle. Donc, comme on l'a vu au cours de cette session, Paul VI nous confirme que la vraie joie vient de la présence de Dieu qui nous sauve du péché, qui nous donne sa grâce pour nous conduire à la vie éternelle. Et en face, nous avons une société, en tout cas en Occident, très développée, avec un état technologique assez avancé. Mais finalement, toutes ces facilités, tous ces plaisirs qui nous sont donnés par là, eh bien, ne comblent pas le cœur de l'homme. Il nous faut autre chose. Nos contemporains cherchent autre chose. Et nous, qui avons la grâce de croire, nous devons en être conscients. Nos contemporains soupirent après la vraie joie. Mais comment la trouveront-ils si personne ne leur parle de Jésus? Et nous, comment notre joie pourra-t-elle complète lorsque tant d'hommes et de femmes ne connaissent pas encore l'amour de Dieu pour eux? Ils doivent donc se résoudre à chercher des plaisirs éphémères, passant ainsi à côté du grand but de leur vie. Donc, on est dans une société qui a un fort développement technologique, mais aussi une société dans laquelle nous voyons grandir la violence, la haine dans le quotidien. Et c'est pour cela que l'Église ne cesse de rappeler que le besoin de paix, de justice, de réconciliation, de vérité que plus ou moins confusément même nos contemporains ressentent, eh bien, ces désirs ne peuvent être comblés sans conversion, donc sans, ne peuvent pas être comblés si les cœurs ne s'ouvrent pas à Dieu et à la foi. Et c'est pourquoi la joie de croire est ainsi indissociable de l'élan missionnaire qui doit animer l'Église afin de changer en profondeur les cœurs. L'an dernier, en recevant les œuvres pontificales missionnaires, le pape Léon XIV disait « Notre monde, meurtri par la guerre, la violence et l'injustice, a besoin d'entendre le message évangélique de l'amour de Dieu et de faire l'expérience du pouvoir réconciliateur de la grâce du Christ. En ce sens, l'Église elle-même, dans tous ses membres, est de plus en plus appelée à être une Église missionnaire qui ouvre ses bras au monde, proclame la parole et devient un levain d'harmonie pour l'humanité. Aujourd'hui, comme au lendemain de la Pentecôte, l'Église, guidée par l'Esprit-Saint, poursuit son chemin à travers l'histoire avec confiance, joie et courage, proclamant le nom de Jésus et le salut qui naît de la foi dans la vérité salvifique de l'Évangile. » Alors justement, ce dernier point, c'est aussi celui qui fait difficulté à beaucoup de nos contemporains, c'est cette prétention de l'Église à annoncer la vérité, à affirmer qu'elle connaît la vérité, que cette vérité s'est fait chair en Jésus et que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Cela passe pour du fondamentalisme, de l'intolérance, etc. Et c'est là le deuxième trait caractéristique de notre société, une société qui est relativiste et donc la religion est reléguée souvent dans la sphère privée. Benoît XVI avait caractérisé notre temps comme une dictature du relativisme. Et c'est vrai qu'affirmer que la vérité existe, qu'elle s'est révélée en Jésus, le Verbe fait chair, et que seule la personne qui accueille le Seigneur par la foi répond ainsi à la soif de vérité qui l'habite, eh bien tout cela est perçu par nos contemporains comme une attitude arrogante, prétentieuse, contraire à la liberté. Cela fait donc un contexte qui rend difficile la mission. Alors on ne va pas répondre à toutes ces objections sur le fait que l'homme est fait pour la vérité, que le relativisme est en fait lui-même intolérant, une contradiction, etc. Parce qu'on en a parlé dans d'autres sessions que vous pourrez retrouver sur notre site. Mais là, dans la perspective qui est la nôtre dans ce sujet sur la joie de croire et le rayonnement de la joie de croire, ce que nous voulons surtout dire, c'est que tout homme est fait pour connaître la vérité, pour connaître le bien. Et ne pas connaître la vérité, ne pas vivre dans le bien, est cause d'une grande souffrance, d'une grande tristesse, d'un profond mal-être pour l'homme. Et donc la société relativiste dans laquelle nous sommes, finalement, ne peut que générer pessimisme, angoisse et tristesse. Pour tout homme, ignorer le Christ, ne pas connaître son amour et recevoir la grâce de son pardon et de sa vie ne peut jamais donc être une question secondaire, mais c'est une question vitale. Il y a un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui est assez court et que je vous encourage à lire sur la question de la mission, de l'évangélisation qui date de 2007, dans lequel on dit « Même si les non-chrétiens peuvent se sauver au moyen de la grâce que Dieu donne par des voies connues de lui, l'Église ne peut pas ne pas tenir compte du fait qu'en ce monde, il leur manque un très grand bien, connaître le vrai visage de Dieu et l'amitié avec Jésus-Christ, Dieu avec nous. En effet, là le document cite Benoît XVI, il n'y a rien de plus beau que d'être rejoint, surpris par l'Évangile, par le Christ. Il n'y a rien de plus beau que de le connaître et de communiquer aux autres l'amitié avec lui. » Et la congrégation reprend, « Pour tout homme, la révélation des vérités fondamentales sur Dieu, sur soi-même et sur le monde est un grand bien. Par contre, vivre dans l'obscurité, sans la vérité sur les questions ultimes, est un mal, souvent à l'origine de souffrances et d'esclavages parfois dramatiques. » Donc l'Église prêche à tous l'Évangile, la bonne nouvelle reçue du Seigneur. Elle n'a de cesse que de faire naître de nouveaux enfants à la vie divine, en faisant connaître à tous Jésus, voie, vérité et vie. Donc voilà un peu brossé à très grands traits, j'en ai conscience, le monde dans lequel nous allons retourner dans quelques heures, mais qui attend de nous une proclamation de cette joie de la foi, de cette joie de l'Évangile. Alors du coup, justement dans cette deuxième partie, voyons comment rayonner la joie de l'Évangile. Donc, je prétends pas être exhaustif. On va simplement développer quelques thèmes ou moyens pour être des témoins authentiques de cette joie de l'évangile dont le monde a besoin. Et d'abord, il faut être soi-même dans la joie de l'évangile. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, et donc nous devons être les premiers à vivre de la joie de l'évangile. Pour cela, il faut être convaincu, déjà soi-même, que l'évangile n'est pas un carcan, un poids pénible qui pèse sur nos épaules et dont il faut éviter au maximum de charger les autres. Comme le dit saint Jean dans sa première lettre, ses commandements, les commandements du Christ, ne sont pas un fardeau. Or, dans l'adversité, il peut arriver d'envier la vie apparemment plus facile de celui qui ne connaît pas l'évangile et qui n'est donc pas tenu d'en observer toutes les exigences. Cette tentation n'est pas propre à nous. On la trouve dans les psaumes, par exemple. « Voyez comme sont les impies, tranquilles, ils amassent des fortunes. Vraiment, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur, lavé mes mains en signe d'innocence. » Le psaume 73. Le cardinal Ratzinger, en s'appuyant sur la parabole des ouvriers de la dernière heure, invitait à ne pas succomber à cette tentation. Lorsque nous nous interrogeons sur la nécessité et sur le sens de notre existence chrétienne, il se glisse facilement dans notre attitude un sentiment d'envie à l'égard de l'existence des autres, apparemment plus aisés et plus confortables, et qui, eux aussi, arrivent au ciel. Nous ressemblons trop aux ouvriers de la première heure dans la parabole de la vigne. Ils ne comprirent plus pourquoi ils avaient dû peiner toute la journée lorsqu'ils durent constater qu'un denier pouvait se gagner beaucoup plus simplement. Donc en étant arrivé à la 11e heure. Mais comment pouvait-il être assuré que le chômage était plus agréable que le travail? Et pourquoi donc n'était-il satisfait de leur salaire que dans l'hypothèse où d'autres auraient reçu moins? Nous présupposons que le chômage spirituel, donc une vie sans foi et sans prière, est plus agréable que le service spirituel. Mais d'où le savons-nous? En ne voyant que le côté difficile du quotidien chrétien, nous oublions que la foi n'est pas seulement un pesant fardeau, mais aussi une lumière qui nous guide et nous donne un sens. En ne voyant dans l'Église que l'organisation extérieure qui freine notre liberté, nous oublions qu'elle est pour nous une patrie spirituelle, un havre sûr dans la vie et dans la mort. Donc il nous faut être persuadés que l'Évangile est vraiment la bonne nouvelle, ce que veut dire Évangile étymologiquement. Bonne nouvelle pour l'homme, et cela parce que l'Évangile n'est pas d'abord un code de morale, un code de bonne conduite, mais l'Évangile, c'est notre Seigneur lui-même, le Sauveur, celui qui a les paroles de la vie éternelle. Jean-Paul II le résume en une phrase. Évangile vivant et personnel, Jésus-Christ lui-même est la nouvelle toute neuve, porteuse de joie, que l'Église chaque jour nous annonce et dont elle porte témoignage à tous les hommes. La joie naît d'un cœur qui se sait aimé de Dieu, sauvé par lui, et cela débouche tout naturellement sur le désir de conduire les hommes à faire cette même expérience. Paul VI l'écrivait en concluant son exhortation sur la joie. N'est-il pas normal que la joie nous habite lorsque nos cœurs en contemplent ou en redécouvrent dans la foi les motifs fondamentaux qui sont simples? Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Par son Esprit, sa présence ne cesse de nous envelopper de sa tendresse et de nous pénétrer de sa vie. Et nous marchons vers la transfiguration bienheureuse de nos existences dans le sillage de la résurrection de Jésus. Oui, il serait bien étrange que cette bonne nouvelle qui suscite l'Alléluia de l'Église ne nous donne pas un visage de sauvé. La joie d'être chrétien, relié à l'Église, dans le Christ, en état de grâce avec Dieu, est vraiment capable de combler le cœur humain. Et donc c'est pour cela que l'Église est intrinsèquement missionnaire, c'est sa raison d'être, comme l'a rappelé le Saint-Père aux cardinaux récemment. La mission n'est pas l'une des nombreuses tâches de l'Église, elle est sa raison d'être. Le Christ demeure dans l'Église, il continue sa mission par l'Église, et l'Église doit donc rayonner et transmettre cette présence de Jésus. Rayonner la joie de l'Évangile demande donc d'abord d'accueillir le Christ dans notre vie, avec toutes ses exigences. Parce que le Seigneur apporte la vérité sur l'homme, sur son salut et sur sa destinée éternelle, mais aussi parce qu'il révèle à l'homme les conditions d'une vie bonne, vécue selon la volonté du Créateur, il n'est pas possible de retrancher un iota de ses paroles. Comme le disait Frère Clément-Marie dans une homélie récente, en cette matière, le tri sélectif n'est pas permis. Il faut accepter toutes les paroles de Jésus, aussi bien celles qui parlent de l'accueil des plus pauvres que celles qui nous parlent du plan de Dieu sur la famille ou de la paternité divine, etc. Cette fidélité n'est pas facile, mais elle est le préalable nécessaire à notre propre joie et à sa diffusion. Le pape Léon XIV le rappelait récemment, aujourd'hui, comme au début de l'Église, cela coûte de rester fidèle aux enseignements de Jésus et d'annoncer sa parole, répondre à la haine par l'amour, à l'arrogance par la douceur, au découragement par la persévérance. C'est pourquoi il est nécessaire que nous enfoncions les racines de notre foi et de notre mission dans une relation intense avec le Seigneur. Cela nous donnera la force de ne pas baisser les bras et de continuer à transmettre à tous, en toutes circonstances, son message d'espérance, d'amour et de paix. Le monde en a tant besoin. Ainsi, la joie chrétienne naît de la présence du Seigneur au milieu de nous. Elle grandit, elle s'entretient, dans la mesure où nous recherchons une union toujours plus vivante, étroite et aimante avec notre Seigneur. La joie de l'Évangile est vécue et diffusée dans la mesure où nous-mêmes, nos familles, nos communautés sont ouvertes à la présence du Seigneur et cherchent à faire grandir cette présence. C'est ainsi que la participation à la messe, la fréquentation d'activités spirituelles, nos efforts pour mener le combat spirituel en cherchant à ressembler toujours plus au divin maître sont au fondement de la joie chrétienne et de sa diffusion. Mais le Christ envoie ses amis évangéliser le monde. Alors, il y a un rôle spécial pour les prêtres et les consacrés, mais c'est bien à tous les baptisés qu'est confié l'immense tâche de diffuser la joie de l'Évangile dans le monde. D'une manière particulière, il revient aux laïcs, comme le dit Jean-Paul II dans Christi Fideles Laici, de faire briller la nouveauté et la force de l'Évangile dans leur vie quotidienne, familiale et sociale, comme aussi à exprimer avec patience et courage, dans les difficultés de l'époque présente, leur espérance de la gloire, même à travers les structures de la vie du siècle. Donc là, on va surtout se concentrer sur la mission propre aux laïcs pour évangéliser, pour transmettre cette joie de l'Évangile dans le monde. Et d'abord, donc, le rayonnement d'une vie chrétienne, du témoignage de cette vie à la parole. Sur cette base d'une vie intérieure intense, nourrie des sacrements et par la prière personnelle, notre vie peut devenir un témoignage qui interpelle ceux qui nous entourent. Le propre de la vie laïque sera d'imprégner d'Évangile les réalités de la vie quotidienne, la famille, le travail, la culture, le loisir, de sorte que là où il y a un chrétien, il y ait quelque chose de changé. Ainsi, celui qui cherche la sainteté élève les regards et fait découvrir des horizons peut-être insoupçonnés à ses collègues de travail, de loisir ou même à sa propre famille. Voir un homme qui, au nom de sa foi, accomplit consciencieusement son travail, s'intéresse aux autres, se donne à sa famille, mais aussi c'est dire non à toute compromission professionnelle ou morale, car il craint plus ce qui peut tuer l'âme que ce qui tue le corps, voilà qui interroge l'homme aux perspectives uniquement terrestres. Ce témoignage de notre vie, déjà, n'exclut pas et même conduit à parler explicitement de notre foi. Mais c'est justement dans la mesure où nos paroles correspondent à notre vie qu'elles auront un poids d'autant plus fort. Paul VI disait « La jeunesse écoute plus volontiers les témoins que les maîtres », donc ceux qui parlent à partir de leur propre vie, dont la vie met un sceau à leur témoignage. Et en quoi consiste ce témoignage ? Jean-Paul II nous le dit ainsi. Ce qu'il donc faut faire passer aux autres à travers notre témoignage, l'homme est aimé de Dieu, telle est l'annonce si simple et si bouleversante que l'Église doit donner à l'homme. La parole et la vie de chaque chrétien peuvent et doivent faire retentir ce message. Dieu t'aime, le Christ est venu pour toi le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors pour le moment, on a surtout parlé de la joie de l'Évangile qui se diffuse en vivant notre foi fidèlement et en toutes ses exigences et en tous les domaines de la vie. Mais il ne faut pas en conclure que la vie chrétienne est une vie triste et morose dans le quotidien. Au cours de la session, on a d'ailleurs vu que les saints sont des exemples de cette joie qui ne possède souvent un fort sens de l'humour. Dieu n'habite pas dans un cœur aigri et triste, mais sa présence dilate le cœur, comme ça a été fait pour saint Philippe Néri, par exemple, au sens le plus physique du terme, ou aussi un Thomas More, par exemple. Dès lors, à leur suite, il faut que ce mot d'ordre de saint François d'Assise devienne nôtre, là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Cela ne veut pas dire instaurer une ambiance superficielle avec des rires bruyants et perpétuels ou des plaisanteries âgées continues. On a parlé de ce que disait notre père fondateur sur ce sujet, qui nous a toujours mis en garde contre une telle attitude. En revanche, le cœur qui est possédé par Dieu est capable de communiquer paix, bonté, douceur, sollicitude. En effet, comme nous l'avons approfondi, la joie naît de la charité, donc de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint et qui pousse à se donner. Dès lors, rayonner la joie, n'est pas quelque chose d'automatique, mais c'est une décision, ça demande un engagement de notre part. Seul celui qui aime, et donc qui se donne par amour, donnera de la joie à ceux qui l'entourent et sera lui-même dans la joie. Mère Marie-Augustin disait « Formez-vous bien à la sollicitude, à la spontanéité, à l'amour, à la joie trouvée dans le don de soi. » La joie se communique donc à travers les actes de charité vécus au quotidien dans les plus petites choses. Mère Marie-Augustin encore parlait de l'apostolat du sourire, sourire qui donne de la joie à celui qui le reçoit, mais aussi à celui qui le donne. Donc, apprenons à découvrir les joies simples de la vie quotidienne. Cultivons et apprenons aux enfants, notamment, à cultiver un regard d'action de grâce et d'émerveillement devant la beauté de la création, la beauté d'une bonne action réalisée, d'un service rendu, d'un travail fait. Sachons nous réjouir du bien qui se fait autour de nous et qui traverse notre vie. Cela nous amène à la question justement du rapport entre la transmission de la joie et l'éducation. Il y a un lien très fort entre éducation et joie pour deux raisons. D'abord parce que c'est par l'éducation que, notamment les parents, vont éduquer leurs enfants aux valeurs fondamentales de la vie, à la vérité, à la prière, à la foi, etc. Et donc, c'est par l'éducation que les enfants vont pouvoir orienter leur vie vers le but ultime, vers le ciel. Et en cette matière, bon, il y a l'enseignement que peuvent donner des parents explicitement, mais il y a déjà le témoignage que les parents donnent par leur vie. Voir des parents prier, se confesser, communier, c'est déjà une manière de transmettre, d'éduquer les enfants aux valeurs fondamentales, à ce qui est important dans la vie, et donc de leur montrer le chemin sur lequel eux aussi doivent marcher. Le deuxième aspect, c'est que l'éducation vise à transmettre aux enfants, en transmettant ces valeurs, elle vise à former leur volonté, pour qu'ils ne puissent les mettre en pratique. Donc l'éducateur authentique n'est pas celui qui met en place une ambiance superficielle, etc., mais celui qui sait aussi mettre des limites, des repères, qui sait reprendre, qui sait encourager, pour aider l'enfant justement à former sa volonté, sans laquelle il ne pourra pas ensuite avancer sur le chemin du bonheur véritable. Et donc l'éducation, c'est aussi le biais par lequel on apprend aux jeunes à faire la différence entre une joie belle et profonde, même si elle peut être très simple, et une jouissance momentanée d'un plaisir simplement éphémère qui ne comble pas le cœur de l'homme. Donc l'éducation est nécessaire à la joie, et pour rayonner la joie, pour la semer, il faut être éducateur. On pourrait dire qu'il n'y a que l'homme éduqué qui peut ensuite goûter la joie. Pour conclure nos réflexions, il faut dire encore un mot sur la relation entre joie et souffrance. À première vue, les deux s'opposent, mais on a vu au cours de notre session à quel point, en fait, la joie de croire est intimement liée à la joie, qui n'est pas forcément sensible, mais réelle, de porter la croix derrière le Seigneur. Alors, c'est un thème qui est difficile, sur lequel on a déjà dit certaines choses. Pour en parler, parce qu'il vaut mieux parler d'expérience sur ces choses-là, on peut faire intervenir au moins un témoin. Je pense à la bienheureuse Chiara Luce, donc une jeune italienne qui est morte, je sais plus exactement à quel âge, mais très jeune, enfin vers 18 ans par là, qui a été atteinte d'une maladie. Au moment où elle apprend sa maladie, évidemment, elle ne saute pas de joie, elle encaisse, elle demande à sa mère de la laisser tranquille pendant 25 minutes. Ensuite, elle dit son oui, et à partir de là, elle va avoir un rayonnement assez incroyable auprès des médecins, des infirmiers, de ses amis. Et au moment de mourir, elle dit à sa mère, « Maman, au revoir, sois heureuse, parce que moi, je le suis. » Donc c'est pas une joie superficielle, sensible, mais c'est la joie de celle qui a compris qu'elle unissait sa souffrance à la croix du Seigneur et que donc il y avait un sens et une fécondité à cette souffrance. Et cela a été missionnaire parce que ça fait réfléchir des membres du personnel médical, en l'occurrence, certains de ses amis qui ont ensuite fait un chemin de foi. Donc là, c'est un exemple de souffrance physique, mais ça vaut aussi pour les souffrances morales, par exemple de la persécution, les souffrances qu'on peut avoir pour rester fidèle à l'Évangile. Et là encore, on pense à Mère Marie-Augusta, qui a connu la souffrance d'un certain échec, outre la maladie, mais la lenteur du développement de la communauté, le fait que les premiers frères n'arrivaient pas. Mais dans sa prière, Jésus lui a fait comprendre la joie qu'il y a dans ce que l'on souffre par amour pour Jésus, qu'elle aimait profondément, par amour pour cette œuvre qu'il lui confiait. La plus grande joie, finalement, c'est d'aider Jésus à sauver les âmes, et cela ne peut se faire sans être associé à la croix. Et donc, voilà, pour nous, chrétiens, la souffrance de la persécution, en tout cas de la contradiction, des moqueries endurées par notre fidélité à l'Évangile, fait partie de ce témoignage et de ce rayonnement de la joie profonde, même si c'est une joie paradoxale. Alors, pour conclure, résumons rapidement ce qu'implique de rayonner la joie de l'Évangile. Tout d'abord, être convaincu qu'être chrétien, c'est une grâce, une joie qui naît de la conscience d'être fils de Dieu, racheté, sauvé par lui. Et donc cette joie, il nous faut la communiquer, déjà en ayant nous-mêmes des visages de sauvés, comme nous a dit Paul VI. Nietzsche aurait dit qu'il ne croirait si les chrétiens avaient des têtes de ressuscités. Nous voyons ce qu'il nous reste à faire. Ayons des têtes de ressuscités, travaillons à ce que nos enfants, les jeunes, tous ceux que nous côtoyons aient des têtes de ressuscités, en sachant l'importance déjà des petites joies quotidiennes, comme le chantait Marie dans la Mélodie du Bonheur, Maria, pardon, dans la Mélodie du Bonheur, l'importance des joies de la vie quotidienne. Cette joie donc se rayonne en donnant de l'amour aux autres. Plus on donne de la joie, plus la joie peut rayonner autour de nous, et soyons sûrs que le Seigneur nous rétribuera au centuple. Et laissons à Paul VI le mot de la fin. Gardons donc la ferveur de l'esprit, gardons la douce et réconfortante joie d'évangéliser, même lorsque c'est dans les larmes qu'il faut semer, que ce soit pour nous, comme pour Jean-Baptiste, pour Pierre et Paul, pour les autres apôtres, pour une multitude d'admirables évangélisateurs tout au long de l'histoire de l'Église, un élan intérieur que personne ni rien ne saurait éteindre. Que ce soit la grande joie de nos vies données, et que le monde de notre temps, qui cherche tantôt dans l'angoisse, tantôt dans l'espérance, puisse recevoir la bonne nouvelle, non d'évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l'Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ et qui acceptent de jouer leur vie pour que le royaume soit annoncé et l'Église implantée au cœur du monde.